Nous faisons la lecture des textes bibliques qui sont la base de la prédication que nous donnera Tim. Alors je vous laisse sortir vos Bibles, ça vaut la peine parce qu'il y a passablement à lire. Alors on commence par 1 Samuel chapitre 25, les versets 14 à 35. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été bons pour nous, ils ne nous ont fait aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on ose lui parler. » Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs, 200 figues sèches, et les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans ce désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qu'il en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. » David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, car tu m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et il lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Alors, on fait une deuxième lecture dans Matthieu, chapitre 5, les versets 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'Éternel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande à l'Éternel. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Et une troisième lecture dans Romains, chapitre 12, les versets 1 à 21, donc tout le chapitre. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayant le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en l'espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns vers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte-le par le bien.
Bonjour à chacun. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour vos prières. Pour la semaine passée, nous avons eu un camp avec les enfants qui s'est très bien passé par la grâce de Dieu et aussi grâce à vous, puisqu'il entend les prières font partie du travail de l'Éternel. Alors soyez-en bénis, encouragés, et nous voulons vraiment remercier le Seigneur qu'il puisse continuer à travailler le cœur de ses enfants. Et c'est justement un privilège, une joie de pouvoir nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, qui est fiable, qui est certaine, qui est pleinement suffisante et si riche. Et comme vous le savez, il fait chaud maintenant, hein. Dehors, on est en été, c'est vrai. Mais sans chaleur, sans aucune température, tout reste gelé. Et notre compréhension est figée sans l'œuvre réchauffante de l'Esprit de Dieu. C'est donc sur lui que nous continuons à compter ce matin pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Nous voici donc à la cinquième prédication de cette petite série sur l'artisan de paix, qui est bien riche, c'est vrai. Et c'est pour moi une joie de vous parler de ce quatrième E. Ah tiens, on parle de E. Dans cette série d'artisans de paix, on parle de E. Et ça nous aide à nous souvenir tout ce que nous avons pu voir ensemble. Mais aujourd'hui, nous allons voir particulièrement le quatrième, ou le cinquième, si on prend le E de base fondamentale, qui est l'Évangile. Mais ce quatrième E, c'est emprunter le chemin de la réconciliation. C'est le but, l'objectif, hein? Atteindre et maintenir cet état de réconcilier. D'où vient la force de l'espérance de la réconciliation? Elle vient de la réconciliation qu'on a avec Dieu, que lui accomplit afin que nous puissions entrer dans une relation réconciliée. Et ce matin, même avant de continuer, j'aimerais chacun ici vous supplier de réfléchir sérieusement à votre situation. Es-tu réconcilié avec Dieu? C'est une question fondamentale. On peut parler des relations avec les autres, c'est très important. Mais la relation avec Dieu est notre base pour la relation avec les autres. Donc c'est une question à laquelle il est vraiment important de répondre. Es-tu réconcilié avec Dieu? Après l'illustration, vous vous souvenez, il y a toujours une petite histoire un peu développée au début, mais après cette histoire, nous parlons de trois points qui pointent vers la réconciliation. Le premier sera pardonner comme Dieu vous a pardonné. Donc on va un peu réfléchir à comment Dieu pardonne. Ensuite, nous parlerons des principes de dialogue pour la réconciliation. Et troisièmement, triompher du mal par le bien. Voilà. Donc voici cette histoire. Une histoire qui nous donne déjà beaucoup d'éléments de ce que nous allons voir ce matin. Je ne peux simplement pas pardonner l'adultère de Carole, dit Louis. Elle dit qu'elle est désolée et m'a imploré le pardon. Mais je n'arrive pas à oublier ce qu'elle a fait. Il y a comme un immense mur entre nous deux et je ne peux le franchir. Donc, tu penses que le divorce est la solution, lui demanda Ken. Mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Je lui ai dit que je lui ai pardonné, mais je n'arrive pas à être aussi proche d'elle qu'avant. Elle est déprimée et a même pris du recul par rapport à moi. J'ai peur qu'elle aille chercher une intimité avec quelqu'un d'autre encore une fois. Nous sommes tous les deux déchirés et il me semble que le divorce est la meilleure solution. Ken lisait sur son visage le poids de toute cette affaire. Je suis sûr que vous souffrez tous les deux, Louis, mais je ne crois pas que le divorce mette un terme à cette souffrance. Vous ne ferez que basculer d'une douleur à l'autre. Il y a un chemin pour préserver ton mariage et pour mettre le passé de côté une fois pour toutes. Mais tu ne l'auras pas par ce pardon vide de sens que tu as offert à Carole. Qu'est-ce que vous voulez dire par pardon vide de sens? Louis, imagine que tu viens juste de confesser un terrible péché à Dieu et que pour la première fois de ta vie, il te parle d'une voix audible et te dise « Je te pardonne, Louis, mais je ne serai jamais aussi proche de toi qu'avant. » Qu'est-ce que tu ressentirais? Après une pause embarrassante, il répond « Je pense que je croirais que Dieu ne m'a pas vraiment pardonné. » Mais n'est-ce pas de cette manière-là que tu as pardonné à Carole? Demanda Ken. Lui regarde le sol cherchant une réponse. D'une voix tendre, Ken continue en disant « Imagine qu'à la place, Dieu t'ait dit, Louis, je te pardonne. Je te promets de ne plus jamais penser à ton péché à partir de maintenant et de le couvrir. Je te promets de ne jamais en parler aux autres. Je te promets de ne jamais laisser ce péché se mettre entre nous et gêner notre relation. » Après un long moment de silence, des larmes coulèrent, commencèrent à remplir les yeux de Louis. « Je saurai que je suis complètement pardonné. Mais je ne mériterai pas ce genre de pardon pour la manière dont j'ai traité Carole. »« Le mériteras-tu un jour ?» demanda Ken. « Le pardon de Dieu est un don gratuit accordé par la mort de Christ pour toi à la croix. Il ne te pardonne pas parce que tu l'as gagné, il te pardonne parce qu'il t'aime. Il ne te pardonne pas parce que tu l'as gagné, il te pardonne parce qu'il t'aime. Lorsque tu comprendras à quel point le pardon de Dieu est précieux et immérité, tu voudras pardonner à Carole de la même manière que tu as été pardonné. » « Je sais que je devrais le faire, mais comment pourrais-je tenir toutes ces promesses ?» Je n'arrive pas à imaginer que je puisse oublier ce que Carole a fait, et je ne pense pas que nous pourrons être aussi proches à nouveau. Attends, Louis, où as-tu vu dans la Bible que le pardon s'est oublié, ou qu'il dépend de tes sentiments? Le pardon est un choix, une décision que tu prends par la grâce de Dieu en dépit de tes sentiments. Bien sûr que c'est difficile, surtout dans un cas comme celui-ci. Mais si tu demandes l'aide de Dieu, quand tu feras ses promesses à Carole, il te fera la grâce de les tenir. Ken et Louis ont parlé pendant 30 autres minutes du pardon de Dieu. Alors que Louis réfléchissait sur le pardon de Dieu à son égard, il éprouva le désir d'en faire autant envers Carole. Nous avons prié ensemble, puis Ken a appelé Carole, qui les a rejoints dans le bureau de Ken. Lorsqu'elle entra, le doute et la peur se lisaient sur son visage. Dès qu'elle fut assise, Louis commença. « Carole, je dois te demander pardon. J'ai péché terriblement contre toi. Tu m'avais demandé de te pardonner et je ne voulais pas te donner un pardon réel. Au contraire, je t'ai puni dans mon amertume et ma froideur. J'ai eu tort. Veux-tu me pardonner ?» Carole fondit en larmes. Entre les sanglots, elle déversa ses sentiments remplis de honte, de culpabilité, ainsi que sa peur que Louis ne puisse jamais oublier. Étendant le bras pour lui prendre la main, Louis répondit « Je peux comprendre ta peur. Je n'ai pas réagi de la manière dont j'aurais dû. J'ai oublié à quel point Dieu m'avait pardonné. Mais il m'a aidé aujourd'hui et je veux te pardonner de la manière dont il m'a pardonné. Par sa grâce, je te promets de ne pas demeurer là-dessus plus longtemps. Je te promets de ne pas en parler aux autres et je te promets de ne pas laisser cette affaire entre nous. » Louis prit Carole dans ses bras et ils pleurèrent pendant plusieurs minutes. En lui offrant le pardon rédempteur de notre Seigneur, Louis apporta la vie et l'espoir dans leur mariage. Bien qu'ils aient dû être suivis pendant des heures pour traiter les racines qui ont causé leurs problèmes conjugaux, le pardon a tracé un chemin dans les décombres du passé. Et par la grâce de Dieu, ils ont pu s'occuper de ces problèmes qui s'étaient soldés par un mariage complètement restauré et un puissant témoignage de la puissance réconciliatrice de Jésus-Christ. La réconciliation est un puissant témoignage de l'œuvre de Dieu. Et avant de parler de ce premier point, de pardonner comme Dieu a pardonné, réfléchissons à ce que le pardon n'est pas. Parce que souvent on se fourvoie, on pense qu'on connaît le pardon. Alors le pardon n'est pas, on l'a déjà vu dans cette histoire, n'est pas une émotion. Le pardon c'est un acte volontaire. Deuxièmement, le pardon n'est pas une excuse. Le pardon traite le péché avec honnêteté et il apporte la liberté qu'aucune excuse n'aurait pu espérer donner. Ce que tu as fait est mauvais. Il n'y a pas d'excuse pour cela. Mais puisque Dieu m'a pardonné, je te pardonne aussi pour cela. C'est une grâce, ce n'est pas un mérite, le pardon. Le pardon n'est pas non plus une mise de côté, c'est un acte de rétablissement. Vous connaissez peut-être Thomas Edison, où il a vécu il y a déjà dans le passé, qui était en train de mettre au point l'ampoule à incandescence. Et il montre ici d'une façon touchante comment il ne met pas de côté, mais il rétablit. Alors, ils ont dû utiliser de longues heures pour faire cette ampoule. À l'époque, ça prenait beaucoup de temps. Et après toutes ces heures de fabrication, après l'avoir terminée, il confie à cette ampoule un jeune garçon pour l'amener dans la pièce supérieure pour faire le test. Le jeune garçon prit l'ampoule, la précieuse ampoule, il monta les escaliers et après deux marches, il tomba et cassa l'ampoule. Et là, Thomas Edison, au lieu de le réprimander, le rassure, et parce qu'il n'avait pas fait exprès, donc il demande à son équipe de se remettre en travail pour refaire une ampoule. Et quelques jours plus tard, lorsque l'ampoule fut prête, il demande au même jeune garçon de monter l'ampoule à l'étage supérieur. Il démontre ainsi le pardon qu'il lui avait accordé de la plus belle manière possible. Il ne mit pas le garçon de côté, mais par son geste, il lui a manifesté un plein rétablissement. Et le garçon savait très bien qu'il ne méritait, mais vraiment pas du tout, de monter à nouveau cette ampoule à l'étage. Là, c'est une belle illustration que le pardon n'est pas une mise de côté, c'est un acte de rétablissement. Le pardon, ce n'est pas oublier. C'est un processus actif de ne plus revenir sur ce qui est pardonné. Et nous le verrons en parlant du pardon de Dieu dans quelques instants. Le pardon ne signifie pas annuler la demande de réparation lorsque c'est possible. Ce n'est pas parce qu'on pardonne à quelqu'un que la personne ne doit pas réparer. Parce que la réparation, ça sera le fruit d'une repentance réelle. Il faut que la personne puisse se repentir réellement. Le pardon n'est pas gratuit. quand on pardonne à quelqu'un, ce n'est pas gratuit. Parce que lorsque nous pardonnons, nous remettons une dette. Cela coûte à celui qui pardonne. Par exemple, si quelqu'un vous a pris du temps par son péché, eh bien, lui pardonner, c'est plus considérer le temps qu'il vous a pris comme du temps qu'il vous a volé. Mais ce temps-là, vous ne le récupérerez pas. Ça coûte de pardonner. Le pardon, dernièrement, ça c'est un point quand même important, le pardon pour un chrétien n'est pas une option. Le pardon, c'est la manifestation du pardon de Dieu en nous. Notre pardon va en fait montrer ce que nous pensons du pardon de Dieu. Notre pardon va montrer ce que nous pensons du pardon de Dieu. Alors juste après avoir dit ce que le pardon n'était pas, allons maintenant admirer et nous remplir de l'exemple du pardon, notre modèle, notre source, le pardon de Dieu. Nous admirer le pardon de Dieu. Et juste déjà deux textes bibliques qui nous poussent à regarder vers ce pardon se trouvent dans Colossiens 3:13 où il est écrit ceci, « Supportez-vous les uns les autres, faites-vous grâce réciproquement, si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, là il est écrit, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. » Ou un autre texte qui va dans le même sens, dans Éphésiens 4:32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Vous savez, les chrétiens sont les gens les plus pardonnés du monde. C'est vrai. Donc ce sont les gens qui devraient le plus pardonner au monde. Voici comment Dieu pardonne. Dans Jérémie 31, il est dit, « Car je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ou bien dans Michée 7:19, « Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » En fait, Dieu ne demeure pas sur le péché qu'il pardonne. Il ne reste pas sur ce péché-là. Il a de la bienveillance envers nous. Il choisit de ne pas rester sur le sujet, de ressasser ça dans son cœur, si je peux dire ça comme ça. Et il le manifeste par un acte volontaire. Il ne se souviendra plus. Les péchés sont jetés au fond de la mer. C'est un acte volontaire. Dieu ne demeure pas sur le péché qu'il pardonne. Ensuite, dans le psaume 103, au verset 12, il est dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. » Ils sont tellement éloignés, on pourrait dire, que Dieu ne revient pas sur un péché qu'il a pardonné. Il l'éloigne à l'infini. Vous avez déjà remarqué que Orient-Occident, ça nous parle un peu moins que Est-Ouest. On a plus l'habitude ici de l'Est et de l'Ouest. En fait, vous avez déjà vu que l'Est est toujours éloigné à l'infini de l'Ouest. Il faut aller partout sur la Terre. C'est toujours totalement éloigné. C'est impressionnant. Dieu a utilisé cette image pour nous montrer qu'il éloigne ses péchés. Il ne revient pas sur un péché pardonné. Il ne le garde pas sous la main. Hein, il le met très loin. Parce qu'il le gardait sous la main, ben après on pourrait l'utiliser pour faire pression. Hein. Non, il l'éloigne. Un autre passage de comment Dieu pardonne. Psaume 130, les versets 3 et 4, qui dit « Si tu gardais le souvenir des fautes, éternel Seigneur, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Dieu ne tient pas des comptes publics de nos fautes pardonnées. Dieu veut que tous nous voient graciés et qu'ainsi ils craignent Dieu. Et encore une autre partie de comment Dieu pardonne. Dieu est amour. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu est amour ? Oui, c'est prouvé, c'est dans 1 Jean 4:8. C'est écrit « Dieu est amour ». Alors, dans 1 Corinthiens 13, il est parlé de l'amour. Vous connaissez 1 Corinthiens 13 ? Si on parle de l'amour d'1 Corinthiens 13, mais on parle aussi de comment Dieu est. Dieu est parfaitement amour. Et il est dit dans 1 Corinthiens 13, « L'amour ne médite point le mal. » C'est intéressant ça. Dieu ne prend pas de la distance avec nous, car des péchés pardonnés se mettraient entre nous, et qu'il méditerait toujours le mal face à nous. Non, Dieu ne médite pas le mal. Il ne prend pas de la distance. Quand il a pardonné, il n'entrave pas la relation entre Dieu et nous. Vous avez déjà vécu ça? Quand vous demandez pardon, vous repentez devant Dieu, et vous avez une relation tellement proche, intime avec Dieu. Ça, c'est comment Dieu pardonne. Il n'y a aucune méditation du péché pardonné. Et la façon dont Dieu nous pardonne nous amène à réfléchir à notre façon de pardonner, comment nous pardonnerons. Et voici, on pourrait dire, quatre promesses tirées de tout ce que nous venons de voir, de comment Dieu pardonne, et que nous pouvons faire nôtres lorsque nous pardonnons. Les quatre promesses de pardon. La première, c'est « je ne demeurerai pas sur cet incident ». Quand je pardonne à quelqu'un, je ne demeurerai pas sur cet incident. Ça tourne tout le temps dans ma tête, pendant des semaines, des années, etc. Non! Nous ne nous attarderons pas sur cette offense. Et comment est-ce qu'on peut le faire parfois quand ça tourne? Ça peut arriver, hein, des fois, quelque chose qui tourne. Eh bien, on va lire Philippiens 4, 8, qui nous donne là à quoi faut-il penser. Et on va chercher, avec l'aide de Dieu, à penser selon Philippiens 4, 8. Ah, vous pourrez aller chercher ce texte, très intéressant. Donc, je ne demeurerai pas sur cet incident. Deuxièmement, je ne remettrai pas cet incident sur le tapis. Je ne l'utiliserai pas contre toi. Je ne remettrai pas cet incident sur le tapis. La dette est payée. Si on a pardonné, c'est que la dette est payée. Ça n'empêche pas de gérer l'offense d'une manière rédemptrice. On a parlé de réparation, exhortation, encouragement. Ça fait partie de ce qu'on peut utiliser. Mais nous ne l'utiliserons jamais comme un moyen de pression. Sinon, la dette n'est pas payée. Je ne remettrai pas cet incident sur le tapis. Ensuite, troisième partie, je ne dirai rien aux autres à propos de cet incident. Je ne dirai rien aux autres à propos de cet incident. Je ne vais pas salir la réputation de cette personne. Et si elle recommence, ça peut arriver que quelqu'un pêche plusieurs fois contre nous de la même manière, comme nous pouvons le faire vis-à-vis d'autres personnes. Eh bien là, ce que nous allons faire, si nous avons besoin de conseils, parce que parfois, on ne sait pas quoi faire. Si ça fait la dixième fois que cette personne fait la même chose, je ne sais plus quoi faire. Eh bien, nous allons chercher des conseils. C'est juste de chercher des conseils. Alors là, on peut le dire aussi déjà, si c'est possible à la personne, qu'on va chercher conseil parce qu'on ne sait plus quoi faire. Et quand on cherche conseil, on va le faire de manière à ne pas médire sur l'offenseur. Et plutôt de dire, mais comment est-ce que je peux gérer cette situation? Quatrième promesse, je ne laisserai pas cet incident se dresser entre nous ou faire de l'ombre à notre relation. Je ne laisserai pas cet incident se dresser entre nous ou faire de l'ombre à notre relation. Avec cette promesse, on peut dire, on revient au moins à la même proximité que nous avions précédemment. On n'est pas appelé à avoir une relation profonde avec tout le monde. Jésus nous montre d'ailleurs qu'il avait des disciples avec qui il a une relation plus profonde qu'avec d'autres. Ça, ce n'est pas un problème. Par contre, lorsque nous pardonnons à quelqu'un, nous revenons au moins à la profondeur, entre guillemets, de la relation qu'on avait avant. C'est ça, en fait, que je suis en train d'enseigner ici. Pourquoi? Parce que la dette, elle est payée. Et si la dette est payée, on revient à la même situation qu'avant. Souvent, d'ailleurs, lorsqu'on vit des choses fortes ensemble, ça va plus profondément. C'est vrai. Ce n'est pas une obligation. Ça, c'est Dieu qui le permet. Donc lorsque quelqu'un vous demande pardon, ou lorsque vous demandez pardon, ou lorsque je demande pardon, lorsque nous demandons pardon à quelqu'un, eh bien, utilisons le plus possible les 7 A de la confession que nous avons vue. Toutes ces notions. Pas juste je te demande pardon, et puis c'est tout. On a vu 7 éléments qui étaient très utiles. Et lorsque quelqu'un vous demande pardon, s'il vous plaît, répondez à cette personne en lui disant que vous lui avez pardonné, au moins en pensant aux 4 promesses qu'on vient de voir. Quand on dit « je te pardonne », eh bien on pense à ces 4 promesses. « Je ne demeurerai pas sur cet incident, je ne remettrai pas cet incident sur le tapis, je ne l'utiliserai pas contre toi, je ne dirai rien aux autres à propos de cet incident et je ne laisserai pas cet incident se dresser entre nous. » C'est ça qu'on dit lorsqu'on le dit « je te pardonne ». C'est énorme, hein? Mais c'est tellement beau. Parce que c'est ce que Dieu fait pour nous. Et parfois, on a de la peine à pardonner. Ben, faut le dire. J'ai besoin de temps. Il ne faut pas juste dire « je te pardonne pour qu'on nous laisse tranquille ». Il faut qu'on ait ces 4 promesses avec nous. Sinon, ce n'est pas pardonner. Ça va ressortir un jour. Vaut mieux dire « écoute, je n'arrive pour l'instant pas à te pardonner. Prie pour moi. » Et donc, en vivant aussi, c'est les 3 autres « e » qu'on a vus. Hein, « exalter Dieu ». Vous vous souvenez, le premier, c'était « exalter Dieu », »,« enlever la poutre », »,« édifier dans la douceur », chaque fois basé sur l'évangile de Jésus-Christ. Comme aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ, c'est le pardon de Dieu que nous voulons vivre. Et nous avons toujours le même but lorsque nous vivons ces instants de pardon et de repentance, c'est la réconciliation. Et nous l'avons par la foi. Ça, c'est un point très important. C'est par la foi que nous cherchons la réconciliation. Parce que ce n'est pas par nos forces que nous pouvons le faire. Nous sommes incapables de pardonner avec ces quatre promesses par nous-mêmes, franchement. Vous arrivez-vous à pardonner avec ces quatre promesses, comme ça, avec vos propres forces? Moi, j'arrive pas. J'ai besoin de l'aide de Dieu. Et Dieu la donne, parce qu'il nous l'a promis. Et là, c'est intéressant de dire, c'est vrai qu'il y a des moments, on pourrait dire, avec l'auteur ici qui dit ceci, il y a des moments où mes prières les plus secrètes étaient celles-ci. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner de mes propres forces. En fait, je ne veux pas lui pardonner. Ou tout au moins, jusqu'il ait souffert ce qu'il m'a fait. Il ne mérite pas de s'en tirer comme ça. Tout en moi voudrait que je me braque contre cette personne, que je laisse un mur de séparation entre nous pour qu'il ne me blesse plus jamais. Mais ta parole m'avertit que le manque de pardon va ronger mon âme et construire un mur entre toi et moi. Plus important encore, donc on parle à Dieu, tu m'as montré que tu as fait le plus grand des sacrifices en donnant ton Fils pour me pardonner. Seigneur, aide-moi à vouloir pardonner. Change mon cœur, rends-le réellement malléable pour que je ne me braque plus envers la personne qui m'a fait du mal. Change-moi pour que je puisse lui pardonner, l'aimer de la même manière que tu m'as pardonné et aimé. On doit vraiment puiser nos forces auprès de Dieu. Et là, juste un témoignage tellement fort. Il m'a tellement marqué, il faut que je vous le raconte. Ici, c'est un témoignage de Corrie ten Boom. J'essaie la prononciation, c'est pas facile. Donc, après sa libération, vous connaissez un peu son histoire. En une phrase, elle fut emprisonnée avec sa famille par les nazis pour avoir secouru des juifs pendant la guerre. Et son père et sa sœur sont morts en prison de traitements brutaux qu'ils ont subis. Et là, elle dit ceci. C'était pendant une réunion d'église à Munich. Je l'ai revu. Le SS, qui se tenait autrefois à la porte des douches au camp de Ravensbrück. C'était le premier des gardiens de prison que je revoyais depuis cette époque. Et soudain, tout me revint. La pièce remplie de moqueurs, les amas d'habits, le visage blanc de Betsy, etc. Il s'approcha de moi, alors que l'église était vide, épanoui et révérencieux. « Je vous remercie pour ce merveilleux message, madame, dit-il. Juste de penser que vous l'avez prononcé, qu'il a lavé mes péchés. » Sa main était tendue vers la mienne pour que je la serre, et moi, qui avais prêché si souvent aux gens de Blomendel sur la nécessité du pardon, je refusais de lui serrer la main. Je me suis rendu compte alors du péché, de mes pensées pleines de colère, de vengeance qui bouillaient en moi. Jésus-Christ était mort pour cet homme. Allais-je demander plus? Seigneur Jésus, priai-je, pardonne-moi, aide-moi à lui pardonner. J'ai essayé de sourire, j'ai lutté pour tendre ma main. Je ne pouvais pas, je ne ressentais pas une goutte de charité ou de chaleur. Je me remis en prière. Jésus, je ne peux lui pardonner, donne-moi ton pardon. Dès que j'eus pris sa main, quelque chose d'incroyable se produisit. De mon épaule jusque dans mon bras et ma main, un courant sembla passer, tandis que dans mon cœur, un amour jaillit pour cet homme qui m'avait accablé. C'est alors que j'ai découvert que ce n'est pas notre pardon, même sur notre bonté, que le monde dépend, mais de lui. Lorsque Jésus-Christ nous dit d'aimer nos ennemis, il nous donne avec le commandement l'amour pour le faire. Une histoire très touchante, où on voit que Dieu agit. Mais il ne va pas nous donner plein de beaux sentiments, etc., avant que nous fassions ce pas. Il nous dit, vas-y, et je te donnerai la force. Le pardon est la clé de toute restauration. Et rappelons-nous, notre pardon montre ce que nous pensons du pardon de Dieu. Et on vient de le voir dans cette histoire avec Corrie, qui s'est rendu compte du pardon que Dieu avait donné, qui lui a donné la force de demander à Dieu de pardonner à cet homme. Et nous puisons ce pardon de Dieu qui non seulement a lavé nos dettes et notre compte en banque spirituelle. Vous savez, on a tous un compte en banque spirituelle. Au camp d'enfants, on a parlé d'un nuage de colère qui est au-dessus de nos têtes. Et en fait, Dieu non seulement a écarté ce nuage sur Christ ou a enlevé notre dette dans notre compte spirituel, mais il a en plus mis sur ce compte un montant infini de grâce et de pardon dans lequel on peut puiser. Et dans la résolution de conflits, il est aussi important de dialoguer. Notre prochain point présentera justement les principes de dialogue, comme dit tout à l'heure, pour la réconciliation. Malheureusement, par nature, nous sommes enclins à entrer dans un dialogue de compétition. voir qui est le meilleur, qui va gagner, alors que la parole de Dieu nous invite à un dialogue de coopération. Une coopération qui considère aussi les intérêts de l'autre. Et voici le second commandement qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Matthieu 22, 39. Ou encore, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes, Matthieu 7, 12. Ou encore dans Philippiens 2, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Le dialogue doit être basé sur l'amour et la sagesse. Et avant de dialoguer, il est important et utile de prendre du temps. On pourrait dire, il faut faire une pause. C'est vrai, il faut faire une pause. Et en fait, chaque lettre de ce mot « pause » va nous aider à réfléchir sur un élément qui nous sera utile. Et à la fin de ces cinq éléments, assez rapide maintenant, on va l'illustrer par l'histoire d'Abigaïl qu'on a vue tout à l'heure. Donc, le premier, donc pause, P-A-U-S-E, hein, ça va. P, préparez-vous. Donc on va se préparer à discuter avec la personne. Donc on va prier, mettre les fêtes à plat, chercher des conseils selon Dieu, développer des options. Préparer, se préparer. Deuxièmement, le A. P-A, affirmer les relations. On va montrer qu'on a un authentique intérêt pour l'autre et qu'on désire que notre relation soit au moins restaurée, voire encore meilleure. Et on va le lui dire. Donc se préparer, affirmer les relations. Le U, user de compréhension pour les intérêts de chacun. Donc chercher, mais quel est son intérêt, quel est mon intérêt, quel est notre intérêt? Et on va les examiner sous le regard du premier E. Comment est-ce qu'on peut exalter Dieu? Ah, vous vous souvenez, iPad? iPad, c'est I, c'est comme je, hein? Pad, plaire à Dieu. Je plais à Dieu. D'accord? Donc comment est-ce qu'on peut plaire à Dieu, lui et moi? Donc P-A-U, préparer, affirmer, user de compréhension. Le S, solutionner de façon créative et satisfaisante. On va chercher des solutions efficaces. Chercher toutes sortes d'idées qui pourraient aider à entrer dans une solution dans cette situation. Et là, Dieu nous donne de l'imagination, de la créativité. Ben, utilisons-la. Utilisons-la plutôt pour chercher des solutions que pour chercher comment embêter l'autre. P-A-U-S et un E, évaluer les options de façon objective et raisonnable. Or là, juste un exemple biblique, là c'est Daniel. Hein. Daniel, il est à Babylone, il doit manger des mets du roi qu'il ne veut pas manger parce qu'ils sont sacrifiés aux idoles. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fâche? Non. Il va vers le chef, puis il dit, écoutez, ben, nous on veut que des légumes, puis vous allez pouvoir évaluer. On va manger ça pendant un certain temps, puis ensuite vous allez voir. Ils ont mangé pendant un certain temps, tout va bien. Le conflit est résolu. Extraordinaire, non? Alors, juste, on va revenir sur l'histoire d'Abigaël, parce qu'elle est vraiment extraordinaire, cette histoire, dans 1 Samuel 25. Si vous voulez, vous pouvez prendre vos Bibles dans 1 Samuel 25, comme ça vous pouvez suivre un petit peu les différents éléments. Alors, Abigaël a utilisé exactement ce principe pause. Intéressant, on va le voir. Donc, Abigaël, le P, c'est quoi déjà? Préparer. Hein, se préparer. Eh bien, vous avez vu qu'Abigaël a préparé la rencontre avec David. Elle a préparé pas mal de nourriture. Elle n'est pas partie sans rien. Il a fallu préparer tout ça. Donc elle a préparé tout cela et l'a apporté à David. Et je suis certain qu'en préparant tout cela, elle priait. Elle préparait ce qu'elle allait dire à David. Parce que je ne sais pas si vous êtes rendu compte des paroles qu'elle a dites à David. C'est très profond, c'est très riche. Ben, ça ne sort pas comme ça d'un coup. Bon, Dieu le donne, bien entendu. Mais je suis convaincu qu'elle a dû y réfléchir. Elle s'est préparée. Ensuite, quand elle arrive vers David, elle a affirmé les relations. Abigaïl s'est jetée aux pieds de David. Donc elle le respecte, elle l'a même appelé maître. Elle a même dit s'il te plaît. Intéressant quand même. Des petits mots comme ça. Elle rappelle aussi les moments glorieux de David. Je ne sais pas si vous avez vu dans le texte, au verset 29, à la fin du verset, elle parle d'une fronde. Parler d'une fronde à David, c'est lui rappeler la victoire sur Goliath. Ça s'est passé précédemment. Donc tout Israël le connaissait. Donc elle affirme les relations. Elle affirme en fait qu'elle veut une bonne relation avec lui. Ensuite, troisième point, elle use de compréhension pour les intérêts de David. C'est intéressant parce qu'Abigaïl a compris que l'intérêt de David était d'avoir une conduite irréprochable et une bonne réputation. Ça, c'était dans l'intérêt de David. Ce qui s'est passé juste avant ce texte dans 1 Samuel 25, eh bien, c'est que Saül avait en fait fait massacrer des innocents à Nod. Donc il y avait un prêtre qui avait donné donc à David de la nourriture et l'épée, et puis Saül a dit « Vous êtes contre moi », il a tué tous les prêtres. Il a massacré des innocents. David allait faire la même chose ici, en fait, chez Nabal. Les serviteurs de Nabal, ils en peuvent quoi que Nabal répond comme ça? Et David a dit qu'il allait tous les tuer, non? Elle s'est rendue compte, Abigail, que dans l'intérêt de David, il avait besoin d'avoir une attitude irréprochable et une bonne réputation. D'ailleurs, David venait d'épargner Saül dans la caverne. C'est des choses qui étaient connues en Israël. Donc Abigail avait compris l'intérêt de David et David le confirme. Regardez au verset 33. David dit ceci à Abigail, « Béni soit ton bon sens et béni sois-tu toi qui m'as empêché en ce jour d'en arriver au crime et d'assurer moi-même mon propre salut. » Ensuite, S, donc P-A-U, S, solutionner de manière satisfaisante. En fait, Abigail propose une solution au verset 27 et 28. Et David et ses gens acceptent ce qu'elle a apporté et David pardonne la faute. Et dernière chose, l'évaluation. Abigail démontre à David que s'il ne met pas son plan à exécution, il gardera une bonne conscience. Il dit, ok, ben évalue, réfléchis. Si maintenant tu vas tuer tous ces gens, garderas-tu une bonne conscience? Évaluation? Non. Donc il vaut mieux accepter. Vous voyez? Donc c'est ça le principe pose. Donc préparer, affirmer les relations, user de compréhension pour les intérêts, solutionner de manière satisfaisante et évaluer. Et j'aimerais passer à notre dernier point qui est triompher du mal par le bien. Si quelqu'un maintenant ne veut pas répondre à votre démarche de demande de pardon, de l'édification dans la douceur, vous avez enlevé votre poutre, vous cherchez à vivre selon Dieu, et la personne ne veut pas être réconcilié. Eh bien, le texte de Romains 12, donc là on vient dans Romains 12 maintenant, qu'on va utiliser aussi. Voilà pourquoi nous l'avons lu tout à l'heure en entier. Donc Romains 12, c'est le verset 21 qui est notre verset clé, ensuite on viendra un petit peu en arrière. Mais même si quelqu'un ne veut pas se réconcilier avec nous, il est dit au verset 21 de Romains 12, « Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Comment répondre à ceux qui ne veulent pas être réconciliés? Pourquoi, après avoir cherché à vivre de manière à exalter Dieu, enlever la poutre de son œil en utilisant les 7 A pour la confession, édifier dans la douceur en cherchant sincèrement le bien de l'autre et en empruntant le chemin de la réconciliation et en vivant dans une attitude de pardon en cherchant ses intérêts, pourquoi cette personne ne veut-elle pas entrer en réconciliation? Cela signifie que l'enseignement de la Bible a atteint ses limites? Faut-il maintenant fermer la Bible et se tourner vers d'autres moyens de réconciliation? Absolument pas. Car la parole de Dieu reste toujours le seul guide fiable pour la résolution des conflits. D'ailleurs, un chrétien sait que lorsque nous ne savons plus quoi faire, il ne faut en tous les cas pas faire une chose, fermer la Bible. Quand on ne sait plus quoi faire, il ne faut pas fermer la Bible. Comme ça, on sait déjà quoi faire. Il faut l'ouvrir. C'est un élément tellement important. Ça ne signifie pas que tout va se résoudre facilement. Non, bien sûr. Mais ça signifie que nous devons ne pas nous concentrer premièrement sur le résultat. C'est vraiment ça. Nous, on fait ça 1, 2, 3, 4. Hein, je fais les 4 E, tout basé sur l'évangile. Et paf, on doit être réconcilié. Les amis, ça ne marche pas comme ça. Bien sûr, Dieu peut donner des réconciliations. Et il utilise ces moyens qui sont bibliques. Gloire à Dieu. Et je m'en réjouis, bien entendu. Mais ce n'est pas ça qui doit nous motiver le plus. Ce qui doit nous motiver le plus, c'est notre fidélité à Dieu. J'ai été fidèle à Dieu dans tout ce que j'ai fait. L'autre personne ne veut pas être réconciliée, je continue à être fidèle. Et je prie pour cette personne. Et je cherche à voir si c'est moi-même qui ai peut-être encore une occasion de chute pour cette personne, ou si ce n'est pas le cas, je continue à la remettre entre les mains de Dieu. C'est très important. Donc de nous concentrer sur la fidélité. On ne peut pas maîtriser ce que l'autre vit. Mais sachez que Dieu nous donne des armes divines face à celui qui ne veut pas être réconcilié. 2 Corinthiens 10, 4 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. » L'arme puissante que Dieu nous a donnée est l'évangile de Jésus-Christ et un aspect de cette puissance est l'amour. Combien de témoignages, là je ne peux pas parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire et de temps qu'on ne peut pas utiliser ici, mais combien de fois nous voyons que des personnes qui n'étaient pas dans la foi ont vécu simplement l'amour envers une personne qui ne l'était pas, il était vaincu. Terrassé par l'amour de Dieu. C'est une arme extraordinaire que Dieu nous donne. Alors un petit peu voir dans Romains 12, puisque dans Romains 12, on a plusieurs éléments qui nous sont donnés ici, très clairement. Donc avant de parler de cette arme suprême, on trouve dans Romains 12, au verset 14, un élément qui nous parle de maîtriser votre langue. Maîtriser votre langue. Bénissez, il est écrit, bénissez, au verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Ça, c'est face à ceux qui ne veulent pas être réconciliés. Ensuite, deuxième élément, trouver des conseils avisés. Ben oui, on a besoin des uns et des autres. Dieu ne nous a pas créés seuls sur la terre. On a besoin. Et il nous a mis en église. C'est pour cela aussi. Trouver des conseils avisés. Parce que Romains 12, 16 nous dit, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Celui qui se croit sage à ses propres yeux ne demandera jamais rien aux autres. » C'est-à-dire que celui qui ne se croit pas sage à ses propres yeux sera tout à fait enclin à demander conseil. Ensuite, troisième élément, continuer à faire ce qui est juste. Même si l'autre personne ne veut pas entrer dans la réconciliation, continuons à faire ce qui est juste. Romains 12 au verset 17 nous dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Et tous les hommes, y compris ceux qui ne nous veulent pas du bien. Ensuite, un autre élément, reconnaître ses limites. Ben oui, on a des limites. Romains 12, 18, il est dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Ben quand ça dépend plus de nous, ben on ne peut plus agir, excusez-moi. Il faut savoir qu'à un moment donné, ça appartient à Dieu. Donc il faut reconnaître ses limites. Romains 12, 18, hein, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ou un autre élément encore, c'est tous des éléments qui sont dans Romains 12 ici. Hein. Un autre élément encore tellement important, laissez à Dieu la vengeance. C'est à Dieu ça, c'est pas à nous. C'est écrit dans Romains 12, 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. C'est tellement important. Et puis ensuite, bien sûr aussi, et là, on a appelé à faire, utilisons l'arme suprême, aimer son ennemi. C'est l'arme suprême, aimer son ennemi. Romains 12, 20, 21, qu'on vient de lire, il est dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Et là, c'est clair qu'on a vraiment besoin de nous accrocher à Dieu. Parce que franchement, personnellement, quand on est face à une situation, ben, ça bouillonne, quoi. Donc ce bouillonnement, il nous faut aller le donner à Dieu. Seigneur, je te donne ce bouillonnement. C'est toi qui feras ça de manière juste. Et qu'est-ce qui est notre motivation fondamentale pour entrer dans la réconciliation? C'est l'œuvre réconciliatrice que Jésus-Christ a fait entre Dieu et nous. C'est fondamental. C'est pour ça que tout au début, je vous ai dit, je vous en supplie, réfléchissez. Êtes-vous réconcilié avec Dieu? C'est tellement important. C'est tellement important. Parce qu'ainsi, on va d'abord se réconcilier avec son frère et ensuite on va présenter son offrande. Parce que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et étant réconciliés avec lui, eh bien, il met aussi la réconciliation en nous vis-à-vis des autres. La foi en l'œuvre de réconciliation de Jésus-Christ entre les enfants de Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous réconcilie les uns avec les autres. Romains 12, au début, on a parlé d'un corps. Nous formons un corps parce que Jésus-Christ nous a réconciliés les uns avec les autres également. Et donc il a choisi lui-même son moyen pour se manifester dans le monde. On l'a vu déjà ensemble dans cette série. Dieu a choisi un moyen pour se manifester dans le monde. Quel est ce moyen? Aimez-vous les uns les autres. C'est le moyen que Dieu a choisi pour se manifester au monde. Et c'est par la prédication que l'évangile sera annoncé. Et si Dieu a choisi ce moyen de l'amour les uns avec les autres pour se manifester au monde, eh bien c'est que la réconciliation entre deux enfants de Dieu est possible. Elle est toujours possible. Et si je doute d'une possibilité d'une réconciliation avec mon frère ou ma sœur, c'est que quelque part mon raisonnement n'est pas fixé sur l'œuvre de Christ, mais sur une œuvre de la personne en face de moi ou sur la mienne. Et c'est vrai que si c'est fixé sur son œuvre à elle, ou sur la mienne, ou même sur l'œuvre d'un médiateur ou arbitre, ou ce que vous voudrez, ben c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. C'est sur l'œuvre de Christ que nous voulons nous baser. La réconciliation entre chrétiens, que ce soit dans le couple, dans la famille, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, dans l'Église, avec tous les enfants de Dieu, c'est possible. Parce que c'est Dieu qui nous l'enseigne et que nous avons les moyens dans la réconciliation de Christ de le faire, pas en nous. Et ce n'est pas seulement souhaitable, c'est ce que nous devons chercher de tout notre cœur, de toutes nos forces. Parce qu'il est écrit, s'il est possible, autant que cela dépende de vous. Donc tout ce qu'on peut faire, soyez en paix avec tous les hommes. Et nous nous souvenons de la première prédication, nous avons pris le temps d'étudier la merveilleuse promesse de Matthieu 5,9. Heureux les artisans de paix, ou ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. En conclusion de cette dernière partie, j'aimerais vous lire la fin de l'engagement de l'artisan de paix, qui dit ceci. Il est aussi sur les papiers verts, vous pouvez suivre. Il est écrit, « Va et réconcilie-toi. » Au lieu d'accepter des compromis hâtifs ou de laisser des relations se détériorer, nous chercherons activement une paix et une réconciliation authentique, en pardonnant aux autres comme Dieu, par Christ, nous a pardonnés, et en cherchant à trouver des solutions à nos problèmes justes et équitables pour les deux parties. Nous voici donc à la fin de cette série de 5 prédications sur l'artisan de paix. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, c'est vrai. Il est important de revenir sur ces éléments pour les vivre aussi, hein. C'est pas en les entendant une seule fois qu'on arrive à les saisir. Je pense que c'est important d'y revenir. Et simplement, rappelons-nous des quelques éléments. L'évangile de Jésus-Christ est extraordinaire. Jésus-Christ a tout accompli. Tout. Là, je fais une petite pub pour le camp d'été. On a eu un enseignement où on a vu que Jésus a tout accompli. Ben, écoutez cet enseignement. Et quand on entend ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Louer Dieu. On va l'exalter. Premier, exalter Dieu. Toujours basé sur l'évangile. Ensuite, eh bien, Jésus-Christ nous pardonne. Si nous allons vers lui, il a dit qu'il était fidèle et juste, il nous pardonnerait. Donc, on n'a aucune crainte à enlever la poutre de son œil, hein, qui était nos péchés à confesser. Ça, c'était enlever la poutre de votre œil. Ensuite, eh bien, Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu. Il nous pardonne. Il veut nous faire grandir et progresser. Eh bien, nous allons aussi chercher à édifier les autres dans la même attitude. On va édifier dans la douceur, le quatrième E. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons pu comprendre que nous avons un Dieu de pardon. Un Dieu aussi qui désire qu'on entre dans une relation où on cherche une solution de réconciliation. C'était donc emprunter le chemin de réconciliation. Qu'allez-vous faire avec tout cela? Qu'allez-vous faire avec tous ces éléments? Eh bien, ma prière, c'est que nous entrions résolument dans une démarche biblique et libératrice pour tous les conflits, grands ou petits, et que chacun cherche dans sa vie à vivre cette réconciliation qu'il a vécue avec le Christ. Que rien d'autre que la réconciliation qui honore Dieu ne soit dans notre viseur. Et que beaucoup, et ça c'est intéressant, que beaucoup croient en Christ parce qu'ils voient des réconciliations entre enfants de Dieu. Prions. Père, nous sommes dans la reconnaissance parce que tu es ce Dieu vivant. Tu es ce Dieu qui nous accueille en Jésus-Christ. Nous avons un chemin ouvert auprès de toi parce que Jésus nous a dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Christ a tout payé et ainsi nous pouvons venir vers toi et implorer ta grâce. Seigneur, ce n'est pas parce qu'il a payé que nous méritons quoi que ce soit. Mais Seigneur, nous implorons ta grâce et savons que tu as les moyens de nous pardonner. Ô Seigneur, que ce pardon que nous recevons de toi devient tellement grand et tellement fort de nos cœurs qu'il jaillisse lorsque quelqu'un nous demande pardon. Et que Seigneur, nous puissions vivre de la même manière que tu nous enseignes et que tu nous montres la manière dont tu agis dans ta parole. Seigneur, sois loué et béni pour cette grâce immense que tu nous donnes et aide-nous à vivre en artisan de paix. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.